Maintenant qu'il va faire plus froid, hein, oui. Bon pot-au-feu, c'est agréable.
La santé démarre par l'assiette. C'est ça qu'il faut privilégier.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah, et ben voilà, on y est dans l'ambiance. Saludé les amis, très heureux de vous retrouver depuis l'île de beauté. Nous sommes loin du studio Coluche, hein, vous l'entendez, nous sommes sur la plaine de Venzolasca, en Haute-Corse, au milieu des champs de clémentine. Et il fait beau en plus. Fruité, acidulé, c'est la pleine saison de cette petite boule vitaminée. Alors on va profiter de notre présence en Corse aussi pour faire un petit inventaire d'un terroir de caractère. Au menu également, charcuterie, fromage et vin corse bien sûr. Ils ont pris l'avion avec moi, voici mes bons vivants made in Corsica. Habituée de l'île de beauté, elle nous sert de guide pour dénicher les belles tables loin des pièges à touristes. C'est Charlotte Langrand que vous pouvez aussi lire dans le journal du dimanche. Bonjour Charlotte.
Salut Laurent.
Salut. Je l'avais salut, bien dit ou pas, ça
oui,
allait
ça va, ça oui, va.
Vous acceptez parce que vous venez souvent ici, vous. Hein. Vous êtes la régionale de l'étape.
Je vous surveille.
Quand il ne fait pas le GR20, il s'arrête chez ses amis vignerons pour faire un autre GR20 VINS. C'est notre ami du Béarn qui est ici aussi chez lui. C'est Yves Condebord. Bonjour Yves.
Oui, j'ai fait les deux GR et je peux vous dire que je les ai fait à fond tous les deux. Bonjour Laurent, bonjour Charles.
Salut.
Heureux de venir dans une terre d'adoption.
Et voilà, on est bien là au milieu des vergers de clémentine, 25 hectares d'un seul tenant juste en dessous de Bastia. Et pour partager un beau plat du jour, Corse, Patrick Fiori, le régional de l'étape, sera des nôtres. Un beau casting encore une fois.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
On ne change pas nos habitudes, votre goût de la semaine. Les amis, on va commencer par vous, Charlotte.
Alors, c'est un goût de la semaine que vous auriez pu prendre aussi, puisqu'on a été tous reçus hier soir à Bastia chez Marny. Chez Marny, ou plutôt chez Fanny, chez Jackie et chez Mado. C'est dans une petite ruelle de Bastia. C'est tellement authentique. On a évidemment très bien mangé les miatchs, les langoustines, les premières, le veau, le fiadone bien humide, comme on adore. Mais surtout, on a été tellement bien reçus. C'est sans chichi, c'est bien, on en oublie
et c'est bon.
Tous les soucis. Et c'est tellement bon que vraiment, c'était un peu comme chez nous, comme à la maison.
Comme à la maison.
C'est rue des Zéphyrs à Bastia, chez Marny, n'est-ce pas Yves ?
Petite rue, hein, garez-vous sur un parking à côté parce que ça ne passe pas avec la voiture. Je précise pour ceux qui viennent en camionnette
Laurent,
comme nous.
C'est le genre de restaurant où on vit juste l'instant. On oublie tout, on est bien, on mange, on boit bien, on mange bien. Mais surtout, on est présent et on se laisse bercer par ces trois fantastiques dames. Et qui nous font passer un moment merveilleux.
Chez Marny.
Et mention spéciale à la déco, au formidable zinc en formica,
oui,
à la
voilà,
playlist avec Dalida, etc.
Comme à la maison. Et moi, je retiendrai ces beaux œufs mayonnaise au yuzu aussi. Votre goût de la semaine, cher Yves ?
Ah ben moi, le goût de la semaine, Laurent, il est typiquement corse. Je pense que c'est l'un des produits qu'on trouve qu'en Corse. C'est le veau tigré de la famille Abatucci. C'est un veau déjà qui a un pelage magnifique parce qu'on dirait vraiment une peau de tigre. Et en plus, c'est un veau qu'on travaille comme du bœuf. C'est un veau qu'il faut cuisiner saignant, qui est moelleux, qui a du croquant, qui a du juteux. C'est vraiment quelque chose de très typique. Et en plus, la famille Abatucci fait un effort extraordinaire par rapport à la qualité. Et vous savez que c'est les seuls en France qui ont installé un abattoir carrément dans leur ferme. Et quand on sait l'importance que ça a pour la qualité de la viande, je le recommande. Alors, on en trouve bien sûr sur le compte sur Lille. À La Roulotte, c'est des magasins bio, mais aussi à Paris, au Butcheuf au Paris, ou même à Aubagne, au Petit Charolais. Voilà, il est en train de se développer sur le continent.
Et
si vous en trouvez, allez-y, c'est magique.
Et on entend des bruits de tracteurs, c'est normal. Hein, nous sommes en plein dans la récolte de la clémentine de Corse. Et on va suivre le tracteur, tiens, justement, parce qu'il y a du monde hein, qui récolte pour que vous puissiez en profiter sur le continent et partout ailleurs de cette petite bombe vitaminée. Mon goût de la semaine, c'est très simple. C'est un velouté de butternut que j'ai fait à la maison. Et j'ai dégusté ça, figurez-vous, avec une terrine de lièvre à la royale.
Cette saison, en plus.
C'est la maison Bartouille qui fait ça. Je vais vous avouer que le lièvre à la royale, quand on le cuisine comme son restaurant, je trouve toujours ça un petit peu fort, un petit peu trop. Joyeux, et bien en terrine comme ça sur une baguette qui vient d'entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une belle baguette croustillante, la terrine comme ça de lièvre à la royale et on trempe dans le velouté de butternut.
Et puis une grande maison, la maison Bartouille à Perorade, un conserveur et des gens qui font du foie gras, qui font du saumon fumé. Une vieille maison avec des produits extraordinaires.
Alors nous sommes à Venzolasca au milieu d'une belle exploitation de clémentine chez Stéphane et Kylian Gigon dans le nord de la Corse. La récolte bat son plein autour de nous, hein, vous l'entendez. Je vous présente présente Jean-Paul Mancel, qui est agrumiculteur et président de l'association pour la promotion et la défense de la clémentine de Corse, s'il vous plaît. Bonjour Jean-Paul.
Salut.
Bonjour. Ah, il le fait bien. Alors Jean-Paul, on va dire la vérité, j'étais venu vous voir déjà pour cueillir des clémentines il y a une dizaine d'années.
C'est ça.
Vous n'avez pas changé, c'est quoi le secret? C'est la clémentine de Corse?
Je pense que c'est la clémentine, de manger beaucoup de clémentines, ça conserve. Alors, c'est gentil de me dire que je n'ai pas changé, j'ai quand même 10 ans de plus.
Ben oui, mais ça ne se voit pas. On va expliquer à nos auditeurs qui se posent la question, tiens, le trajet que la clémentine de Corse emprunte pour venir d'ici, d'un beau verger comme celui-ci à Soiron, jusqu'à leur corbeille de fruits.
Hein,
ils s'en passent
du boulot. Alors vous avez ici les gens qui récoltent la clémentine. Ensuite, elle est transportée un peu plus haut dans la station de conditionnement. Et une fois que ces clémentines sont triées et conditionnées, elles sont chargées sur un camion frigo qui prend le bateau tous les soirs. Tous les soirs, nous avons un bateau qui rejoint donc Marseille. Et de Marseille, par exemple, ces clémentines vont à Rungis. Donc, dans une nuit de transport, elles arrivent le lendemain matin.
Alors, on le voit parce que les arbres sont très, très fournis. Moi, j'étais frappé de ça. Hein.
Oui, il y a une très belle récolte cette année.
C'est dingue. Les branches pourraient presque casser
tellement
c'est fourni. Hein.
C'est ça.
Alors là, on entend les belles feuilles de clémentine de Corse. Ça, c'est une des particularités de la clémentine de Corse. C'est qu'on la trouve sur les étals avec son petit cuvert et ses belles feuilles.
Et ses feuilles, voilà. Même si on est copié de plus en plus, c'est toujours la particularité de la clémentine de Corse.
C'est vrai que les Espagnols, on se met le doute un petit peu en mettant des feuilles.
Complètement.
Mais le cuvert, c'est la clémentine de Corse.
Et alors la reconnaissance, c'est vraiment l'IGP qui permet de distinguer l'origine.
Cueillette à la main, on va en parler dans un instant avec Jean-Paul Mancel qui reste avec nous. Hein, et on se retrouve dans quelques minutes pour découvrir la clémentine de Corse, la seule clémentine française. Les amis, Cocorico Corse.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Qu'est-ce que c'est beau, et si avec ça on n'est pas dans l'ambiance, bienvenue au verger de Soiron dans la plaine orientale de Corse. Nous sommes avec Jean-Paul Mancel, agrumiculteur et président de l'association pour la promotion et la défense de la clémentine de Corse, parce qu'il faut la bichonner, la protéger. Et on en parlait avec Yves, Jean-Paul, de l'endroit où nous sommes. C'est vrai que c'est magnifique, 25 hectares de vergers d'un seul tenant.
C'est surtout des vergers qui sont, on croirait pratiquement sur la pelouse du Champ de Mars.
Il y a du trèfle.
Il y a du trèfle, on sent que c'est grand, on sent la rosée, on sent l'humidité autour de tous ces arbres. C'est vrai que ça fait plaisir de voir une culture avec toute la végétation qui entoure les arbres.
C'est ça, c'est un verger qui n'est pas désherbé. Et donc c'est de l'herbe naturelle qui pousse et on la broie, mais on entretient nos vergers comme ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa.
Quoi. Et les arbres, ils font quoi, 3-4 mètres maximum? Ça va jamais bien plus haut?
Alors, ça dépend des variétés. Là, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, là, vous êtes dans une variété qui est moins poussante, où les arbres sont plus petits, mais vous avez des arbres qui peuvent faire 4 mètres ou 4 mètres 50.
Mais bien touffu. Hein.
Mais bien touffu.
Alors, une question que nos auditeurs se posent, Jean-Paul, pourquoi la clémentine de Corse a ce petit cuvert? Hein, ça vient d'où, ça?
Alors, c'est la particularité de la Corse, c'est que... Elle a du mal à colorer, c'est-à-dire qu'elle colore avec la différence entre la nuit et le jour. Donc c'est une coloration naturelle. Donc comme c'est une coloration naturelle, au fur et à mesure, l'épiderme se colore. Donc à un moment donné, vous avez un fruit qui a le cuvert et l'orange sur une moitié.
On le voit autour de nous, il y en a qui sont encore toutes vertes avant de passer à l'orange. Hein.
Alors celles-ci ne sont pas ramassées actuellement et elles seront ramassées dans une deuxième temps ou troisième temps. En fait, on arrive à faire 2 à 3 passages. On ramasse vraiment que les fruits qui sont colorés et qui sont à maturité.
Et un petit mot sur... Pardon Yves.
C'est vrai que visuellement, ça fait une décoloration...
C'est ça. Et au fur et à mesure des nuits, la coloration devient rouge. Mais
c'est la preuve que c'est artisanal, hein, parce que sinon ça passe en chambre trop longtemps, on a une couleur homogène, mais c'est moins artisanal du coup.
C'est ça. C'est vraiment la preuve que le fruit est mûri naturellement. Voilà. Il n'est pas passé en chambre, il est mûri naturellement.
Et un petit mot sur les longues feuilles, parce que c'est ce qui a fait longtemps le charme de la clémentine de Corse. Elle était la seule sur les étals, hein, parce que c'est une saison courte. Ça commence en novembre et ça termine début janvier. Donc c'est maintenant vraiment qu'il faut en profiter. On est au cœur de la saison. Et on voit maintenant qu'elle est copiée par l'Espagne qui met des feuilles aussi pour semer le doute un petit peu. Hein.
Mais exactement, on est de plus en plus copié, notamment par l'Espagne, mais aussi le Portugal et l'Italie. Donc il y a beaucoup maintenant d'agrumes, notamment de clémentines, qui arrivent sur les marchés avec des feuilles. On est copié et il faut absolument qu'on continue à faire une différence. Et la différenciation aujourd'hui, c'est l'origine, c'est l'IGP. Mais on devient... dans le monde des clémentines, tout le monde fait de la feuille.
Le goût, c'est ce qui fait la différence.
Il y a le goût, il y a le goût qui fera la différence.
C'est ça le plus important.
Fruité, voilà, acidulé, voilà. Elle est moins sucrée qu'une clémentine d'Espagne, par exemple. Alors, on parle de la clémentine de Corse, mais attention, elle ne pousse pas partout sur l'île, hein, Jean-Paul. Il faut un terroir bien spécifique comme celui sur lequel on se trouve, là. Hein.
Bah exactement, c'est la côte est, hein, qui part de Borgo et qui va jusqu'à Solenzar. Et tous les vergers sont regroupés sur ce morceau de plaine. Vous avez la mer et tout de suite derrière les montagnes. C'est ça qui fait aussi le charme et le goût des clémentines. C'est vraiment le terroir avec la mer et les montagnes. Donc vous avez un climat quand même qui est continental, malgré qu'on soit dans la Méditerranée. Et donc, ce qui fait la spécificité aussi de la clémentine.
C'est ce microclimat qui fait qu'elle explose en bouche comme ça, c'est-à-dire qu'il y a cette douceur de la mer qui l'accompagne et la protection de la montagne. Donc, c'est vraiment le produit du terroir et des éléments de la Corse.
C'est une cousine de la Mirabelle de Lorraine, parce c'est qu'on ça. Entend voilà. Les mêmes choses. Hein,
voilà. Exactement. mais quand on a écrit notre cahier des charges, c'est vrai qu'on connaissait les gens de la Mirabelle et on a pris des choses de chez
c'est
eux,
ça,
parce
oui,
qu'on se ressent beaucoup. En termes de fruits et de goût, d'importance de volume, donc on se ressent beaucoup.
Quelles sont les variétés qu'on cultive ici, Jean-Paul ? Il n'y en a pas tant que ça.
Non. Alors en Corse, nous avons deux variétés. Les arbres que nous avons à côté de nous, c'est la variété Caffin. C'est une primeur. Donc vous voyez, il n'y a pratiquement plus de fruits sur les arbres. Donc c'est une variété qui est finie, qui est consommée. Donc ça, c'est la primeur qui vient mi-octobre jusqu'à début novembre. Et ensuite, vous avez la commune, ce qu'on appelle la fine de Corse, qui est un peu plus sucrée et plus acide.
Ouais.
Et un peu plus acide.
C'est celle qu'on a là, là.
C'est celle qu'on a là. Et ça représente quand même 80% du volume. Alors ensuite, nous avons un tout petit peu de Newless, mais c'est anecdotique. Donc on n'a vraiment que deux variétés. Et c'est ça aussi qui fait un peu notre force et un peu notre faiblesse. C'est qu'on a peu de variétés adaptées à la Corse qui sont disponibles.
Voilà. Un mot sur la peau, parce que ça dépend des années. Moi, je suis un dingue de la clémentine de Corse. Hein, et je remarque que parfois, alors c'est peut-être les variétés, vous allez nous dire aussi, parfois la peau est très fine et très attachée à la chair. Et d'autres fois, là j'en ai accueilli une juste dans le verger tout à l'heure, avec une peau très épaisse et très boursouflée.
Alors la Caffin, en général, a une peau un peu plus rugueuse, un
D'accord.
peu plus bosselée. Et la fine de Corse, comme son nom l'indique, c'est vraiment une fine de Corse, la peau est très fine.
Très délicate.
Est-ce qu'il y a une différence gustative ?
Il y a une différence gustative, en effet, comme toutes les primeurs dans toutes les variétés, les primeurs ont toujours un goût un peu différent. Alors la variété Caffin est quand même plus sucrée. Elle a tendance plus sur le sucre que sur l'acidité. Et la fine de Corse est quand même au départ plus acide que sucrée. Et après, les équilibres se créent au fur et à mesure
Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y en a une qui est plus pour la pâtisserie et l'autre peut-être pour le salé ?
Ah, peut-être. Alors à ce moment-là, la Caffin serait plus pour la pâtisserie, c'est possible.
On va parler cuisine justement parce qu'on peut la cuisiner. Mais avant, je voudrais qu'on parle de cette clémentine qui fait la richesse de la Corse, hein, Charlotte.
Ah oui, mais la production est quand même assez récente. Hein. Les premiers clémentiniers, ils ont été plantés en Corse vers 1925 à Figaret. C'est un petit peu plus loin, 36 km au sud de Bastia. Et ça génère quand même 2000 emplois sur l'île actuellement. Vous disiez, il y a 175 producteurs IGP.
Indication géographique protégée.
Ouais. Et c'est la deuxième activité agricole de l'île après la viticulture. Et 30 000 tonnes sont commercialisées sous cette IGP.
Il faut qu'on parle du prix aussi, parce qu'elle est vendue plus cher. Hein, j'allais dire forcément, parce qu'elle fait déjà plus de route. Le prix moyen de la clémentine corse, c'est, on va dire, elle est 4,90 € contre 2,99 €, 3 € pour la clémentine d'Espagne.
C'est à peu près ça.
Et c'est vrai qu'en cuisine, c'est une clémentine intéressante. On va en parler dans un instant, parce qu'on peut la cuisiner en salé, on peut la cuisiner en sucré. Mais juste avant, je voudrais qu'on joue avec notre bruit de cuisine. Vous le savez, vous pouvez gagner avec nous de jolies choses. Aujourd'hui, c'est un mini pot potager d'intérieur, véritable connect qui est à gagner avec 4 lingots de saison. Vous pourrez planter plus de 70 plantes aromatiques. Alors on va écouter ce bruit de cuisine puisqu'il est tombé la semaine dernière avec Jonathan Lambert. C'est drôle et c'est facile, je trouve.
C'est facile. Pour une fois, je crois l'avoir trouvé. Pour une fois.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Charlotte Langrand, Yves Candebord et Jean-Paul Mancet, l'agrumiculteur et fervent défenseur de la clémentine de Corse. Nous sommes au cœur des vergers de Soironne, dans la plaine orientale. Il fait beau, on est bien là au milieu des vergers. Jean-Paul, un petit mot sur tout ce que vous faites ici, parce que vous êtes un fervent défenseur de la clémentine de Corse, mais vous cultivez aussi du pomelo, hein, ce oui, cousin du pamplemousse.
C'est ça.
Et des noisettes aussi.
Et des noisettes sous IGP, tous les fruits qui sont sous IGP, voilà, le pomelo et la noisette. Alors, Et le kiwi maintenant. Le kiwi qui a une IGP aussi maintenant.
Le kiwi corse. Et oui, le pomelo qui est le cousin du pamplemousse, ce n'est pas encore maintenant vraiment la saison.
Non,
là,
ça commencera à partir du mois de mars.
Alors c'est vrai que les agrumes, c'est une très grande famille. Beaucoup poussent sur l'île de beauté. Un petit mot sur l'origine de la clémentine de Corse. Comment le clémentinier s'est retrouvé ici sur ces terres?
Ben c'est une personne qui était en Algérie, qui a rapporté les premiers plans un peu plus loin, comme vous l'avez dit, et qui a rapporté les premiers plans. Et ensuite, il y a des Corses qui ont commencé à planter des clémentiniers en Corse. Et voilà, donc ça a commencé il y a 50 ans.
Mais il faut dire quand même que la clémentine, c'est le fruit des amours entre un mandarinier et un oranger à la base.
Exactement, c'est un croisement.
Voilà, vers Oran, et c'est le père Clément qui a fait ça par hasard, je crois. Et c'est en hommage au père Clément qu'on l'a appelé la clémentine.
La clémentine, c'est ça.
Alors Charlotte, vous avez fait le voyage avec un livre pour devenir incollable sur les agrumes. C'est le grand livre des agrumes qui vient de paraître chez Flammarion. Là, on est incollable hein, sur l'agrume, on peut le cuisiner en plus.
Ah oui, c'est vraiment un travail exceptionnel qui a été fait par Anétor en collaboration avec Perrine et Étienne Chalère. Vous avez tous les agrumes, les citrons, les oranges, les clémentines, les mains de Bouddha, les kombawa, les pamplemousses, mais aussi des agrumes un petit peu plus rares comme la bigarade ou le calamondin que vous allez pouvoir découvrir. Il y a des fiches techniques, il y a des histoires, il y a les saisons évidemment, et surtout des belles recettes de chefs connus comme Pierre Gagnère ou William Ledeuil, mais aussi très très abordables comme la tarte à l'orange de Martine Étor qui doit être la maman de Anne, et les sablés au citron et à la fleur de l'oranger, des madeleines à la bergamote. Vraiment, je vous le conseille, c'est une référence. Ça va devenir un grand classique pour Noël, par exemple, le grand livre des agrumes chez Flammarion d'Anne Étor.
Et on ne peut pas venir ici, Jean-Paul, sans parler d'un endroit assez extraordinaire qui se trouve pas loin d'ici. C'est un gigantesque conservatoire des agrumes.
Et oui, à l'INRAE, il y a un conservatoire qui est mondialement connu avec pratiquement toutes les variétés d'agrumes qui existent dans le monde. On espère pouvoir trouver des variétés adaptées à la Corse et pouvoir développer d'autres variétés que la clémentine.
Vous nous écoutez en épluchant peut-être une clémentine de Corse en ce moment et vous dites tiens, j'aimerais bien la cuisiner parce que c'est vrai que c'est un indispensable de la corbeille de fruits. Mais comment peut-on la cuisiner en sucré et en salé? On a notre chef bistronome à nos côtés, on va lui poser la question. Yves Candebord.
On va commencer par le sucré, Laurent. Et moi j'ai une recette un peu plus simple mais tellement bonne. C'est une tarte fine aux clémentines. Alors elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un pâtissier boulanger qui se trouve à Lille, Alex Croquet. C'est simplement une pâte feuilletée où on va déposer des tranches de clémentine en rosace en faisant une spirale et en le montant assez haut et la cuire dans un four à 150 degrés pendant au moins 45 minutes. Et c'est tout simple, mais c'est un résultat qui est assez incroyable. La seule délicatesse, c'est qu'il faut vraiment couper la clémentine en deux et après la recouper en tranches. Et il faut un couteau qui taille comme une lame de rasoir, parce que quand vous allez la couper, il faut la tailler finement et surtout ne pas l'écraser pour qu'elle conserve complètement son jus.
Et en salé, est-ce qu'on peut la cuisiner avec une volaille, avec du cochon par exemple?
On peut la cuisiner avec une volaille, avec du cochon, voire avec un riz de veau, mais avec un complément, c'est-à-dire faire un condiment. J'adore un condiment de clémentine, c'est très simple, c'est des clémentines juste blanchies, c'est-à-dire mis dans de l'eau, une ébullition, faire deux fois l'opération. Après, on prend 1 litre d'eau, 200 g de sucre roux, 200 g de vinaigre et on va les laisser cuire pendant 45 minutes. On les égoutte, on les mixe, on va rajouter un peu de cuisson et ça vous fait une pâte de clémentine qui peut aussi bien vous servir en condiment avec un pâté, un joli pâté de la maison Bartoli, une belle terrine et ou un riz de veau. Vous faites un riz de veau que vous allez juste poêler au beurre. Vous déposez ce condiment au fond de l'assiette.
Oh, c'est beau ça, Jean-Paul.
Posez le riz de veau dessus. Je peux vous assurer que c'est... Parce qu'il y a de la pertinence. Il y a cet équilibre entre l'acidité, le fruité et cette profondeur que la clémentine nous laisse au palais. Et c'est vraiment un accord qui est vraiment très pointu.
Alors il faut qu'on parle d'un autre agrume ici qui est originel sur l'île, c'est le cédrat, qui est un agrume qui pousse depuis très longtemps. Et nous avons de la chance parce que Alexia Santini, qui est pâtissière ici, qui fait de magnifiques confiseries, elle est là, Alexia. Ben, venez Alexia, restez pas loin dans le verger parce qu'elle nous a fait de belles choses. Un cake au cédrat et on a même une petite clémentine confite. Bonjour Alexia Santini, merci d'être là.
Bonjour.
Vous nous régalez, c'est vrai que le samedi matin, c'est l'heure où on a envie de se faire plaisir avec un petit cake. Alors non pas au citron, mais au cédrat. Hein.
Au cédrat et à la clémentine, tout à fait. À la base, on est des confiseurs, enfin mon père plutôt. Je reprends l'entreprise avec lui, ça fait à peu près une petite dizaine d'années.
Un peu plus haut.
Un peu plus haut, c'est ça. Et en fait, j'ai eu envie d'allier le côté confiserie avec de la pâtisserie, mais de voyage, donc qui se conserve. Donc du coup, j'utilise beaucoup de fruits confits dans mes cakes.
Et pour les confire, vous faites comment? Vous les choisissez de petit calibre?
Alors, on les choisit de petit calibre. Et en fait, avant de pouvoir les confire, il y a plusieurs phases qui font rentrer dans la fabrication. Donc, il faut à peu près 6 mois, voire parfois même 1 an, avant de pouvoir confire un fruit. Donc, en fait, quand on les récolte frais, on va les faire passer dans différentes phases de saumure, donc de l'eau salée, dans différents bains, en fait pour préparer la peau au confisage. Et ensuite, on va, l'étape suivante, c'est le blanchiment qui va durer à peu près 1 semaine suivant les fruits. Donc ça, on va les faire chauffer dans de l'eau sans les faire bouillir. Et ensuite, on va pouvoir les confire, ce qui dure à peu près 2 semaines.
Alors ça, faut qu'on goûte. Parce
attention, il y a tous les quartiers dedans, voilà.
Oui, voilà, il y a encore.
Elles
voilà,
sont gorgées de sirop.
Il y a du sirop, c'est ça qu'on aime.
C'est vrai que nos auditeurs ne peuvent pas l'avoir, mais c'est d'une perfection.
Sur europe1.fr, on vous la met ici.
On a vraiment l'impression que ça a été construit.
C'est un bonbon.
Parce que ça part pas d'un fruit naturel, tellement c'est parfait visuellement.
Ah oui.
Confiserie qu'on retrouve à Sauveria, hein, c'est à quelques minutes de Corté chez vous, Alexia Santini. Hein.
Oui, tout à fait, on est au centre Corse, oui.
On se régale.
Ce qui est très intéressant, une fois de plus, voilà, c'est cet équilibre qu'il y a entre le fruité, l'acidité et le sucre. Sucré du au confit. Je veux dire, ça on conserve le goût authentique de la clémentine.
Voilà, on essaye vraiment exactement de garder un maximum le goût du fruit sans que le sucre ne passe au-dessus. Quoi.
C'est ça, c'est le danger, franchement, du fruit confit. On en a déjà parlé ici, c'est que le sucre l'emporte. C'est comme une fumaison, quand le fumage prend le goût. On parlait du haddock la semaine dernière, c'est la même chose. Tout ça doit être subtil et délicat.
C'est tout l'équilibre qu'on recherche quand on fait ce genre de préparation, justement. Ce n'est pas dénaturer le produit, au contraire, c'est le revaloriser et le mettre en avant.
Oui.
Eh bien, merci pour cette belle confiserie, Alexia Santini. Et merci, Jean-Paul Mancel.
Merci. À vous. Merci à vous.
Merci à tous les deux.
Merci beaucoup. On vous retourne, on vous laisse retourner dans vos jolis champs de clémentines, de pomelos et de noisettes aussi, puisque vous faites de tout ici en Corse. On se retrouve juste après la pub. On va parler de notre opération qu'on a lancée il y a 15 jours, vous savez, des bras pour nos restos. Et Patrick Fiori nous rejoint dans un instant aussi. Bah forcément, il est chez lui en terre corse.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
De jolis chants corses que vous pourrez retrouver dans l'album Corsou Mezzou Mezzou numéro 2 avec Patrick Fiori tout à l'heure. Nous sommes toujours en bonne compagnie avec Charlotte Langrand du Journal du Dimanche et Yves Candebord, chef de file de la bistronomie qui a son rond de serviette, vous le savez, à cette table. On est sous les clémentiniers, sous le soleil de Corse.
On est bien.
On va parler des bras pour nos restos dans un instant. Vous savez, l'appel qu'on a lancé il y a quelques jours, il y a 15 jours précisément, pour faire le lien entre l'offre et la demande dans le monde de la restauration. Mais juste avant, et avant d'accueillir aussi Patrick Fiori, je voudrais qu'on passe un coup de fil important au chef de l'année sacré cette semaine par le Goemio. Il se trouve au Chambard, à Kaisersberg dans le Haut-Rhin. On vous en parle souvent ici à cette table. C'est Olivier Nasty, le chef du Chambard. Bonjour Olivier Nasty.
Bonjour Laurent et bonjour à tous.
Bonjour Olivier. Corse s'appelle l'Alsace et ça marche. Magnifique technique. Heureux Olivier Nasty de ce joli prix alors?
Oui, oui, bien sûr, Laurent, on est très heureux. On est très heureux pour notre belle région, pour notre maison et puis surtout pour les équipes. Bien sûr, on savoure ça depuis 2 jours.
On m'a dit que vous aviez été surpris à l'annonce de ce titre.
Oui, ben forcément, ce n'est pas des choses, des récompenses. On ne sait pas qu'elles vont tomber à l'avance. Alors donc, oui, surpris, heureux, très, très content. Et puis, ce qui est le plus plaisant, c'est de voir des équipes et puis toute une entreprise. On voit que c'est des gens qui sont impliqués pour la maison.
Et la place du gibier dans votre cuisine a compté, j'imagine, parce que, comme je le disais, vous êtes un cuisinier chasseur.
C'est ça, chasseur, un petit peu cueilleur aussi, un petit peu pêcheur, même beaucoup. Voilà, c'est, je pense que l'ensemble de ces facettes et puis l'amour que j'ai pour le monde de la chasse, l'envie que j'ai de dépoussiérer cette image que la cuisine de la chasse pourrait avoir, eh bien, je pense que ça aussi, ça a aidé à avoir cette récompense, oui.
Yves.
Ouais, mais Olivier, moi je pense aussi que ta force, c'est sans doute voilà, que tu as depuis longtemps une philosophie et tu t'y tiens. Voilà, tu ne vas pas dans les modes. Voilà, tu as la chance d'appartenir à une région qui est très marquée gastronomiquement. Tu la mets en valeur. Et je crois que cette régularité de travail, cet investissement au quotidien, sans faire beaucoup de bruit, mais en étant toujours présent, en pensant qu'à une chose, c'est au bonheur des clients, c'est la vraie réussite des grandes maisons comme la tienne.
Absolument, je te remercie Yves.
Vous connaissez l'île de Beauté, hein, je crois, Olivier Nasty. Je sais que vous aimez découvrir vos territoires de voyage en logeant et en mangeant chez l'habitant. Alors, est-ce que vous avez eu un joli souvenir culinaire lors d'un passage en Corse?
Oui, j'en ai un magnifique l'an dernier. J'ai fait une marche sur le Cap Corse en plein hiver avec déjà un peu de neige, avec le froid. Qu'on peut y connaître les rafales de vent et tout ça, et après plusieurs heures de marche, et m'a fait découvrir la pulenda. Alors comme l'habitant le fait, quoi, c'est cette fameuse
farine de
farine de châtaigne. Et puis après ils ont la baguette, ils prennent pas un ustensile de cuisine en inox ou un fouet ou quoi que ce soit, ils prennent leur baguette de bois et puis ils la font tourner tout doucement et moi je regardais faire cette recette, je dis mais il va mélanger un moment ou un autre, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et on est arrivé à un résultat où je me suis régalé. Il a mis une fois que c'était terminé, il l'a mis dans un torchon. Et puis on l'a eu chaude pendant 20 minutes sur table, on l'a coupé avec une petite ficelle. Vous voyez, ça a été, waouh, c'était pour moi un moment incroyable parce que je me suis transporté dans leur monde et dans leur façon. Et alors il m'a raconté que le grand-père, l'arrière-grand-père le faisait comme ça. Alors ça amène toute cette histoire et toute cette envie de perdurer des traditions comme ça.
Olivier Nasty, juste avant de vous quitter, nous avons lancé un appel sur Europe 1 il y a 15 jours pour que les restaurants et le personnel se retrouvent pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre dans le monde de la restauration. Ça s'appelle des bras pour nos restos. Est-ce que le meilleur chef de l'année cherche quelqu'un pour renforcer son équipe? Oui. Ah bah alors allez-y.
Oui, on a, c'est une belle entreprise. On a demande pour le service, les arts de la table, et merci de nous donner la parole et merci d'avoir pensé à ça, Laurent. Vraiment, c'est, on a besoin. Mais si je prends pas longtemps, quelques secondes, j'aimerais dire quand même que c'est un métier dans lequel on a la possibilité de grandir, de faire plaisir aux gens. C'est un métier d'abnégation, c'est un métier de passion et dans lequel on a une satisfaction qui est juste débordante. Je pense que peu de métiers dans notre société apportent autant de satisfaction. Et il est vrai que bien souvent, on travaille quand les gens ont eux congé, mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on travaille. Et croyez-moi, les gens qui sont à mes côtés, on est quasiment une centaine au Chambard. Les gens qui sont à mes côtés, je les vois au quotidien avoir beaucoup de plaisir à travailler dans cette profession. Je crois qu'il faut qu'on valorise l'image au quotidien pour qu'on fasse comprendre aux gens que c'est un métier de passion et qui apporte une satisfaction incroyable.
Eh bien, merci Olivier Nasty. On fera passer justement votre annonce sur Europe 1.fr. On a mis en place une carte interactive avec des annonces d'emploi. Bon week-end au Chambard et encore bravo au chef de l'année élu par le Goemio. Au revoir Olivier Nasty.
Profitez bien. Au revoir à
merci,
tous.
Oui,
merci,
oui,
je vous
absolument.
Embrasse,
au revoir. Oui, cette carte interactive avec des annonces d'emploi, elle est sur Europe 1.fr.
Oui, il y en a Charlotte. Déjà une trentaine. Merci d'avoir réagi. Vraiment, allez voir toutes les offres d'emploi qu'il y a sur Europe 1.fr.
Alors, vous êtes nombreux à parler de salaire, effectivement. Le salaire et les conditions de travail et les horaires sont un vrai sujet dans la restauration. Mais je pense que ça peut se discuter et se négocier avec
les annonces sont qualitatives.
Ceux qui laissent de belles annonces. Comme vous dites, c'est qualitatif. C'est l'heure de jouer avec nos bruits de cuisine. Europe 1 vous offre un potager d'intérieur. Le véritable Connect, un mini potager autonome qui vous permet de cultiver facilement des aromates dans votre cuisine. Allez voir ces jolis mini potagers sur véritable-potager.fr et on accueille notre invité. Un Olivier peut en cacher un autre. C'est Olivier qui est au téléphone. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants et bonjour à l'accord.
Bonjour.
Et bonjour la Corse, vous nous appelez d'où ? Sur le continent ?
Oui, oui, je suis sur le continent. Je suis à Vrigny, un petit village juste à côté de Reims, un petit village perdu dans les vignes.
Oh, ben une jolie région. Ah oui, la Champagne, magnifique. Alors on écoute ce bruit de cuisine, Olivier. Alors, est-ce que vous avez une idée ?
Mon Dieu, c'est dur.
C'est dur ? C'est non.
Bah, pour moi, c'est dur, oui. On peut réécouter ?
Un chouïa, alors. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un stand de tir carabine.
Oui, oui, d'accord, oui. Écoutez, je pense à, je sais pas, quelqu'un qui fait une sauce dans un saladier ou dans un cul de poule en inox ou quelque chose comme ça.
En mettant du rythme. Oui, c'est vrai qu'il y a du mouvement. Vous avez raison, il y a du mouvement. Oui. Mais c'est pas ça. Mais en tout cas, Olivier, on vous envoie un livre de la rédaction pour cuisiner de belles choses à Noël. Parce que c'est la période pendant laquelle on va se faire plaisir à table. Merci, Olivier, d'avoir joué avec nous. Et bon week-end du côté de Reims. On rejoue tout à l'heure et Patrick Fiori sera des nôtres. Patrick Fiori nous rejoint pour déguster le plat du jour, un plat cuisiné par l'auberge locale. Ici, nous sommes en Corse et on est bien et on revient dans un instant.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité généreux, altruiste. C'est une voix et un mec bien. Ça fait 25 ans qu'il chante pour toutes les générations. Comme le brooch, il appartient au patrimoine Corse. Patrick Fiori est notre invité. On va parler avec lui du très bel album Corsou Mezzou Mezzou 2. Bonjour Patrick.
Bonjour, bonjour et merci bonjour. De nous recevoir dans cet endroit merveilleux. On ne peut pas faire mieux.
Et merci à vous d'avoir fait de la route. Je me suis permis parce que vous avez votre ronde serviette ici. On vous sait amoureux du terroir corse. Vous étiez en famille du côté d'Ajaccio.
Exactement.
Et vous avez franchi le col pour venir nous retrouver
ça
ici.
Ça va, mais il n'y avait pas trop de neige, donc ça va. C'était un peu gelé, j'ai fait attention, mais c'est un plaisir d'être là.
Comment ça va ?
Ça va super bien, ça va magnifiquement bien. Je suis heureux d'annoncer que des bonnes nouvelles.
Ben allez-y.
Voilà, ben le Corsou Mezzou Mezzou 2 était disque d'or il y a à peu près 2 semaines. Et là, on est pratiquement double disque d'or, encore quelques jours. Et puis voilà, je pense que c'est rentré dans le cœur des gens, cette main tendue avec le continent, Corse continent, culturellement. Oui. Ben, il fallait juste que les fils se touchent un petit peu. Voilà, je suis le détracteur de cette histoire, une envie d'enfance. C'est un peu comme un parfum, c'est un peu comme un repas, c'est un peu comme des choses qu'on aime beaucoup.
Comme les feuilles de vigne de votre maman Marie-Antoinette qu'on a eu au téléphone lors de votre dernier passage. Vous savez que les auditeurs me parlent encore de cette séquence.
Hein, moi, on m'en parle encore aussi.
Quand on a eu votre maman qui nous a expliqué la recette des feuilles de vigne farcies, comment elle va Marie-Antoinette ?
Elle va très très bien.
On l'embrasse.
Je l'ai vue hier et puis voilà, donc cet album, on l'embrasse bien sûr, ça c'est gentil. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que je suis juste le metteur en scène de ça. Les artistes insulaires ont fait des chansons merveilleuses, j'aime bien dire un genre de collier de diamants qui a cassé et qui a perlé aux quatre coins du monde. Donc voilà, les chansons sont là, les artistes sont là et puis du coup on s'est dit puisque ça marche, autant donner rendez-vous aux gens le 28 octobre.
Exactement.
2023, donc l'année prochaine.
2023, hein. Paris La Défense Arena.
Paris La Défense Arena, 40 000 personnes et ça s'appelle La Corse débarque à Paris.
Voilà, il y aura Patrick Bruel, Vianney, Julien Doré, Carla Bruni, Julien Clerc, Thomas Dutronc, du beau monde qu'on retrouve sur cet album, qu'on retrouvera aussi en partie avec des chanteurs corses, bien sûr.
Bien sûr, parce que
venus de l'île de beauté.
C'est des duos, de toute façon. Voilà, ce sont des artistes du continent qui ont accepté de chanter des chansons corses avec des artistes insulaires. Donc voilà, c'est assez improbable, mais ça marche, ça fonctionne, les gens aiment et tant mieux.
Quel est votre goût de la semaine, Patrick Fiori ?
Alors, le goût de la semaine, pour tout vous dire, quand je suis arrivé hier, ma mère s'est débrouillée pour mettre un plat de lasagne au brooch au bar de l'aéroport qui était fermé. Et donc, quand je suis arrivé hier et que je suis sorti avec ma valise, non, mais je vous le dis parce que c'est vrai,
génial.
Quand je suis sorti avec ma valise, il y avait. Alors, ce n'était pas un colis piégé, hein, c'était juste un petit sachet. Et donc, elle m'a dit, quand tu sors, juste sur le comptoir était fermé, tu prends ton plat, comme ça, tu auras quelque chose à manger à la maison. Voilà, vous voyez.
Magnifique.
Les femmes ici, il faut attention.
Une vraie maman.
Il n'y a rien de plus beau.
Qu'est-ce que c'est beau. Alors, vous aussi, Charlotte Langrand, vous aimez la Corse, bien entendu, et ses produits. Et votre saison préférée sur l'île de beauté, c'est maintenant. Racontez-nous.
Oui, enfin, disons que c'est ma saison rêvée ou ma saison fantasmée, parce que je n'ai pas si souvent l'occasion de venir en hiver, hélas, alors que c'est une saison idéal magnifique. Pour qui aime manger. Parce que la Corse, donc, c'est à la fois une île, une montagne, une plaine, des vallées, un climat méditerranéen particulier. Et c'est donc une terre de produits forts, superbes, aussi bien cuisinés que très peu travaillés. Quand ils sont, vous savez, un peu fiers et droits dans leur simplicité, moi je les adore. Et donc on pourrait vous parler de charcuterie, ah bah de miel, du maquis, de fromage, d'oursin, de châtaigne. Oui. C'est vraiment les reflets d'un patrimoine qui est de mieux en mieux préservé par les artisans locaux. D'ailleurs, je crois que c'est ici qu'il y a le plus grand nombre de d'AOP, d'appellations d'origine protégées en France. Et puis comme les agrumes dont on parlait tout à l'heure, ces produits donnent vraiment le meilleur maintenant en hiver. Et donc je vous annonce que je vais avoir un petit supplément bagage pour le retour à Paris.
Alors quel produit avez-vous envie de déguster, manger ce samedi ici en Corse?
Je vais clairement remédier à une grosse frustration. Donc l'été, on trouve de la brousse, mais pas de brooch. Voilà. Exactement. Je pars sous votre contrôle.
Hein. Non, il y a Patrick Chéry. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Les Corses nous écoutent.
Voilà, hein. En Corse, parfois, on dit que le brooch, c'est le brooch. Mais bon, encore, on le retrouve partout. C'est l'emblème de la cuisine corse. On le trouve des entrées au dessert. C'est un fromage frais au lait de brebis ou de chèvre issu du lactosérum, du petit lait.
Oui.
Et on en fait des dizaines de plats, des cannelloni, des beignets, des miatchs, du fiadone un peu humide, là, comme celui d'hier chez Marnie, c'était parfait. Ou une omelette au brooch avec un petit peu de menthe. C'est simple, mais pour moi, c'est exceptionnel. Donc, je vais me ruer dessus.
Vous pouvez mettre des oursins aussi. Vous savez que vous pouvez faire omelette, brooch et oursin. Donc, avec le corail d'oursin. Voilà, vous faites revenir tout ça et puis vous mangez. Je vais vous faire goûter ça.
C'est beau ça. Alors, l'hiver, là, on rentre dans l'hiver, c'est aussi la saison du figatelle.
Ah oui, le figatelle. Donc, c'est une saucisse forte en goût. Hein,
ça, il faut avoir goûté une fois ça dans sa vie.
Ah bah oui, ça s'est fait à partir des pièces de viande un peu secondaires, le foie, le cœur, les rognons, la viande grasse ou maigre. Ça dépend des régions. Le must, c'est le faire griller au feu de bois, mais sinon, on peut aussi le cuire avec des haricots, des lentilles, des petits champignons, ou on peut même en faire un parmentier de figatelle, comme Nicolas Stromboni, mon ami marchand de vin à Ajaccio, que vous devez connaître.
Tout le monde le connaît.
Il connaît tout le monde.
Voilà, qui vous donne dans son livre. Il a fait un super livre que j'adore qui s'appelle Du pain, du vin, des oursins chez Marabout. Il donne la recette du parmentier de figatelle. Donc il y aurait plein d'autres produits dont j'ai envie de parler. Mais en tout cas, pour dénicher tous ces produits, il ne faut pas hésiter à s'éloigner un peu des sentiers battus, dans une Corse un peu plus montagneuse que littorale, plus sauvage aussi, qui change un peu de la foule estivale, pour trouver les petits charcutiers, les petits bouchers, les petits fromagers, des villages à l'intérieur des terres. Bref, je vous exhorte à faire un tour en Corse, mais pas seulement l'été.
Eh ben merci, c'est une très bonne idée. On mettra les références de toutes ces belles adresses sur europe1.fr. Donc vous l'avez compris, Charlotte Langrand va rentrer à Paris avec un supplément en bagage.
C'est culturel.
Et moi, j'ai un petit message à passer à Marie-Antoinette. Je veux bien aussi une barquette de brooch et de lasagne au brooch à l'aéroport. Je veux bien repartir.
Non, mais Laurent, il n'y a qu'ici qu'on peut voir ça. Vraiment, c'est incroyable.
Mais qu'est-ce que c'est beau. Vous restez avec nous jusqu'à midi et demi,
avec
Patrick.
Plaisir.
On va avoir une belle invitée aussi que vous voulez nous présenter,
Francine,
qu'on retrouve sur l'album.
Allez, on envoie le bar à la deux, les gars.
Et le brochette de bœuf, un tartare et une frite.
Pour flamber, il faut pencher. Voilà, pour que ça flambe. Voilà.
Europe 1.
Hop, hop, assaisonnement, hop, on enlève.
11h, midi 30, la table des bons vivants.
Allez,
Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous. Nous avons quitté le studio Coluche pour la Corse. Nous sommes installés au milieu des vergers, le verger de Soironne. Nous sommes à Venzolasca, juste en dessous de Bastia. Et nous sommes avec Patrick Fiori qui est avec nous jusqu'à midi et demi. Et on est bien au milieu des champs de Clémentine. Vous êtes notre invité avec ce très bel album, Patrick. Corsu Mezzu, Mezzu 2, hein, le deuxième album. On a écouté Terra Corsa tout à l'heure, qui est un hymne à donner envie de venir sur l'île de Beauté.
On a envie de venir en été et en hiver.
Et en été.
Et a donné envie de venir à la Défense Arena aussi.
Et aussi le 28 octobre, il est bon. Il n'en rate pas une, il est bon le 28 octobre à la Défense Arena. Vous aviez une question à propos de la cuisine corse pour Patrick, je crois, Yves Candebord.
Oui, parce que moi je me pose une question. J'ai beaucoup d'amis ici et je vois toujours les femmes en cuisine. Alors Patrick, je voulais poser une question. Est-ce que tu connais des hommes qui cuisinent en Corse?
Bien sûr.
Ah bon.
Je connais même des hommes qui mettent la pastille dans la vaisselle aussi.
Et ils la mettent très bien.
Et ils la mettent bien. Maintenant, ils ont compris qu'il y avait le gel qui existait. Non. Bien sûr qu'on cuisine parce qu'on est dans le partage. De toute façon, on a cette vision de la famille. Enfin, en tout cas ici et certainement ailleurs. Hein. On n'est pas exceptionnel à ça. Mais les femmes cuisinent énormément ici. Et donc, du coup, les hommes sont imbibés, sont imprégnés. Et puis, de temps en temps, ont envie de faire des petits plaisirs et essayer de recopier un petit peu ce que font ces merveilleuses femmes, ces cordons bleus, cordons verts, cordons rouges, un peu cordons, ce que vous voulez. Et du coup, ben, je m'y suis mis moi aussi et je cuisine pas mal. Bon, je suis un homme d'intérieur.
La transmission se passe quand même par les femmes.
Oui, ben oui, la transmission se passe par les femmes. Puis, il ne faut surtout pas oublier qu'elles nous gardent 9 mois dans leur ventre quand même. Donc, pour transmettre, elles savent faire.
Il n'est pas venu tout seul, Patrick Fiori. Il va nous présenter Francine Massiani qui nous rejoint. Bonjour Francine.
Bonjour à tous.
On vous retrouve sur ce très bel album Corsu Mezzu Mezzu 2. Présentez-nous Francine.
Ah là là, alors vous avez un quart d'heure, 20 minutes.
Ouais,
alors Francine est une jeune femme charmante, absolument ravissante, qui a surtout un cœur aussi grand que cette planète, aussi grand que cet endroit. Alors elle a beaucoup de possibilités. De son grand sourire, ben, elle peut animer une émission sur Via Stel. Voilà, qui certainement est vraiment très souvent dédiée aux enfants. Elle connaît la musique puisqu'elle chante, elle écrit, elle compose. Elle a beaucoup de possibilités d'enregistrement aussi dans sa tête. Elle arrange les choses. Et puis surtout, elle a accepté gentiment et humblement de venir chanter sur cet album une chanson qui s'appelle Kifa.
Kifa.
Voilà, une chanson de M. Antonio Tiozzi.
Avec vous et avec Nikos.
Avec M. Nikos Aliagas et moi-même. Et voilà, Francine a embarqué dans cet album-là et a dit oui comme beaucoup d'artistes. Et je suis ravi de ça et ravi qu'elle soit là aujourd'hui.
La cuisine corse est dans vos gènes aussi, hein, vous le disiez Francine tout à l'heure.
On n'y échappe pas, non.
Vous dites que chez vous, chaque repas de famille se terminait en chanson, c'est vrai ça?
Mais c'est très vrai, c'est très juste, exactement, oui. En fait, la table c'est souvent un vecteur de partage et chez nous c'est de tradition, que ce soit le chant, que ce soit la cuisine, ça se transmet par les femmes, comme c'était si joliment dit. Et c'est vrai qu'on avait tendance à faire ça, oui.
Eh bien écoutez, on va arrêter d'en parler, on va accueillir notre plat du jour et nous recevons aujourd'hui Emmanuel Kaeli qui tient l'auberge Oufraniou. Alors est-ce que je prononce bien Emmanuel? Dites-nous comment il faut bien prononcer le nom de votre auberge qui est ici à Venzolaska.
Ça s'appelle le Fragnou.
Le Fragnou. Le Fragnou. Qu'est-ce que ça veut dire, le Fragnou?
C'est un ancien moulin à huile d'olive.
Je voulais vraiment qu'on mange local. C'est pour ça, quand on est venu ici à Venzolaska, on m'a dit il y a Emmanuel Garelli qui régale avec des plats mijotés, avec de belles spécialités locales et régionales. Donc, j'ai eu envie qu'on y goûte. Qu'est-ce que vous nous avez fait pour notre passage en Corse, alors?
Alors, c'est des ch'tortes sabrées avec du veau aux olives.
Elle est fait, ma mère. Attendez, je ne peux pas dire que c'est meilleur que ma mère. Donc, je vais goûter. Si c'est bon, je vous fais un clin d'œil.
Alors, qu'est-ce que c'est que les storzapreti? Racontez-nous.
Alors, c'est des quenelles de broche avec des blettes.
Ce fromage frais, hein, voilà. On y revient toujours.
De la menthe?
Non, de la nebida.
Ah, c'est quoi la nebida?
La nebida, c'est
comme la marjolaine un peu.
C'est la même famille. C'est pas tout à fait de la marjolaine. C'est la même famille que de la marjolaine. Voilà, avec de l'ail, du persil.
Et comment vous faites ça?
Alors, c'est une farce. Je mets tout dans un récipient. Il faut tout bien mélanger. Après, vous faites des petites quenelles de broche que vous roulez dans la farine et qu'on poche dans l'eau.
Ça, c'est beau, ça, c'est magnifique.
On régale parce que je n'ai rien mangé depuis 6 heures du matin.
Voilà, vous avez fait la route, vous êtes venu d'Ajaccio pour nous et on vous en remercie.
Oh, merci. C'est vraiment. Moi, ça ressemble un peu, pour que l'éditeur comprenne, ça ressemble un peu à une petite crépinette. Quoi. C'est rond et voilà. C'est une épaisseur d'un centimètre. Et c'est vrai que quand on la voit visuellement, on pourrait s'attendre à quelque chose avec une certaine consistance un peu. Alors que là, on est sur la délicatesse, c'est on est sur la finesse. C'est très, très léger.
Et un petit goût mentolé là, avec un épi.
Ouais. Tu vois, j'ai dit mentolé moi aussi. Ça fait deux fois qu'on dit mentolé. Et c'est vrai que ça fond sur le palais, ça tapisse le palais. Et il y a ce goût alors qu'on a trouvé mentolé qui s'imprègne et qui nous donne une très, très belle saveur à l'ensemble de la bouche. Et c'est vrai qu'il y a c'est relevé avec un peu de poivre. Et c'est très, très, très agréable.
Il y a une belle consistance. Qu'est-ce que ça veut dire, storzapreti, d'ailleurs, en Corse?
Alors, ça veut dire étouffe curée.
Étouffe curée ou étouffe chrétien?
C'est les chrétiens, ouais. Oui, mais c'est les...
C'est ça. Est-ce que c'est des recettes que vous avez retravaillées un peu, allégées? Par rapport au nom d'origine,
non,
ça pourrait paraître quelque chose de consistant.
Non. Ça part d'une recette ratée.
Ouais. Eh ben, elle est réussie.
Un peu comme la tatin.
Voilà, c'est une histoire, c'est une recette ratée. C'est une personne qui a invité des prêtres à manger et qui avait fait des raviolis. Donc, quand elle a poché ces raviolis dans l'eau, la raviole s'est ouverte et la farce est remontée. Ouais, donc au dernier moment, elle a servi ça. Mais elle a... Et ils en ont tellement mangé, ils se sont tellement gavés qu'ils ont appelé ça torte sabrite.
Quand on le déguste comme ça, là, nous en avons trois par portion. C'est délicieux, c'est léger. C'est pas étouffe-curé.
Bien au contraire. Bien
justement, on est d'accord. Et à côté, vous nous avez cuisiné. Je vous ai vu arriver avec ce plat tout à l'heure, Emmanuel Garelli, un beau sauté de veau aux olives. Ça, c'est un vrai plat typique corse aussi, ça. Hein.
Oui, oudiane. Ouais.
On comme l'appelle on aussi oudiane, le tien. Le...
C'est vraiment ça, dans un beau contenant en terre cuite.
Ça doit mijoter, ça cuit très très longtemps. Ça doit cuire minimum 4 heures.
Et ça se mange en 4 minutes. Hein.
C'est ça, c'est l'art éphémère de la cuisine. Avant d'accueillir un grand nom de la vigne en Corse, dans un instant, Shérif Candebord, qu'est-ce qu'on boit avec ce beau plat là?
Alors, ce beau plat, c'est un plat qui a du caractère, qui a de la puissance. Et moi, j'aime bien sur les plats, un peu mijoter comme ça, mettre des vins un peu plus légers. Je trouve que ça fait un bel équilibre et surtout le vin va respecter le plat parce qu'il y a un travail de cuisinier qui est très profond dans le plat. Alors j'ai choisi un vin, c'est le Clos Fornelli, c'est José Vanucci qui fait des vins qui sont sur le fruit et surtout avec beaucoup de légèreté, ce qu'on ne retrouve pas sur les grosses appellations corses où les vins ont beaucoup plus de caractère. Et c'est la cuvée Robe d'Ange.
Ah, c'est bien ça.
Je trouve, que c'est un nom merveilleux, joli. Voilà.
Avec
c'est
une légère tension.
Une légère tension.
Pas trop d'acidité.
Beaucoup de fruits. Ah oui. Et juste la rondeur qu'il faut pour accompagner ce magnifique plat de veau.
Eh ben, merci beaucoup Emmanuel Garelli d'être venu nous régaler. Votre auberge s'appelle Ufraniu à Venzolasca. C'est à la sortie du village, on ne peut pas vous louper.
C'est à
la
sortie du village.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
Et vous êtes ouverte du jeudi au dimanche, c'est bien ça.
Alors,
toujours. Hein.
Le jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche midi uniquement.
Eh ben, merci d'être venu Emmanuel Garelli. C'est l'heure d'accueillir notre deuxième auditeur pour tenter de trouver notre bruit de cuisine. Nous vous offrons un potager d'intérieur. Vous le savez, véritable Connect, un mini potager autonome qui vous permet de cultiver facilement des arômes dans votre cuisine. Eh bien, nous avons aujourd'hui Corinne au téléphone. Bonjour Corinne.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants et bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour.
Eh bien oui, il est là Patrick Fiori, il est là en force avec son bel album Corsu Mezzu Mezzu 2 qui prend le même chemin que le 1 avec de très très belles ventes et c'est un beau cadeau de Noël ça.
Ah, c'est un beau cadeau de Noël, le 1 s'était vendu à plus de 400 000 albums.
C'est énorme. Alors est-ce qu'on va offrir pour Noël un mini potager d'intérieur véritable Connect à Corinne? Telle est la question. Corinne, vous nous appelez d'où? Je ne vous ai pas demandé.
Alors, je vous appelle de Tourcoing, dans le nord de la France.
On écoute le bruit de cuisine, Corinne.
Merci.
C'est un fouet.
Alors, vous proposez quoi pour ce bruit de cuisine, Corinne?
Alors, je vous propose des assiettes qu'on sort du lave-vaisselle et qu'on empile.
Ah, c'est parce que Patrick a parlé du lave-vaisselle peut-être tout à l'heure. Ça vous a mis sur cette piste. Eh bien, ce n'est pas ça malheureusement, Corinne. Oh, donc on reviendra avec ce bruit de cuisine la semaine prochaine. Hey, Corinne, vous n'avez pas tout perdu. On vous envoie du soleil du côté de Tourcoing. On va vous envoyer le joli livre Agrumes dont parlait tout à l'heure Charlotte Langrand.
Et un album Corsu Mezzu Mezzu aussi.
Et l'album Corsu Mezzu Mezzu 2. Oh, ben, je vous mets le magazine, les petits plats en plus. Tiens aussi.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus?
Allez, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Très bien, merci Corinne.
Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin d'émission à vous. Au revoir,
profitez bien du soleil. Ouais, merci Corinne. On est là jusqu'à midi et demi. On revient avec Yves Candebord dans un instant et un vigneron corse, mais alors attention, qui fait chanter les bouteilles ici, comme vous, Patrick Fiori. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous avons installé la table des bons vivants au milieu des clémentiniers de Corse, ici dans la plaine orientale, avec Patrick Fiori, Francine Massiani, Yves Candebord et Charlotte Langrand.
Ça on sent est dehors. Bon. Et ça sent bon.
Et ça sent bon. Ça sent, alors on va le redire, si vous prenez l'émission en cours, les Storza Preti au veau et aux olives que nous a cuisiné avec amour Emmanuel Garelli du restaurant Ufraniu, qui est juste à côté à Venzolasca. Vous en pensez quoi alors?
C'est excellent.
C'est quelque chose que vous connaissez,
alors,
Patrick.
Je connais très très bien, ma mère les fait depuis longtemps, on a cette chance. Donc du coup, je peux dire qu'il faut que ma maman se méfie quand même, parce que c'est plutôt pas mal.
Je vous ai vu faire un clin d'œil. Hein.
Et Antoinette, oui, j'ai fait un petit clin d'œil. C'est très bon, vraiment, elle nous a proposé quelque chose de fabuleux. Et le vin en accompagnement, ce vin-là, c'est un excellent choix.
Et un joli sauté de veau aux olives, vous retrouverez toutes ces recettes sur europe1.fr, bien entendu. Alors côté vin, la Corse aussi est une très très belle terre. Des vins que nous aimons particulièrement ici à cette table et qu'on va vous faire découvrir avec vous. Vous, Yves Candebord, parce que vous avez fait un joli casting pour nos auditeurs.
Oui, j'ai découvert moi en 1989 une région, la région du Cap Corse et de la Balagne, deux régions. Et j'ai eu la chance de passer par Patrimonio et j'étais impressionné par la qualité de cette appellation. Il faut savoir que Patrimonio, c'est la première appellation qui a été appellation d'origine contrôlée en Corse en 1968. Voilà. Ça fait plus de 50 ans.
Plus de 50 ans.
Voilà. Et ils sont allés plus loin. C'est pour ça que je veux parler de ça, parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve extraordinaire. Ils sont devenus la première appellation d'origine contrôlée 100% bio.
Alors, pour en parler, vous avez invité un vigneron connu et reconnu jusque bien au-delà de l'île. Et je vois que Patrick Fury acquiesce, donc il le connaît aussi. Présentez-nous ce beau vigneron qui vient de nous retrouver à table.
Alors, c'est un très, très beau vigneron par la qualité, bien sûr, de ses bouteilles, mais surtout par la qualité de son cœur. Voilà, c'est Antoine Arena, qui est vigneron à Patrimonio.
Maintenant, bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être là.
Antoine. Merci à vous.
Eh ben non, c'est un plaisir.
Alors, de nous avoir invités, les Van Corse, pardon.
Voilà, Antoine a toujours été, en premier lieu, le représentant de toute une région. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, alors, les vins d'Antoine Arena? Racontez-nous.
Alors, les vins d'Antoine Arena, c'est des vins qui ont du cœur. Voilà. Je reviens sur le cœur, mais pour moi, c'est très important. Et c'est surtout des vins qui ont de la profondeur. Voilà, c'est des vins qui sont faits avec une philosophie de pureté, ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les vins nature. Mais c'est des vins nature qui sont totalement maîtrisés de A à Z. C'est des vins qui ont la rondeur suffisante avec l'équilibre d'acidité qui amène de la fraîcheur. Et c'est des vins qui ne laissent jamais indifférent. Et peut-être que la chose la plus importante dans la vie, c'est ne pas laisser indifférent. Il faut laisser du goût, il faut laisser de l'esprit.
Antoine Arena, alors racontez-nous le vin qu'on déguste à cette table. Beau portrait, hein,
dis-je. Que voulez-vous que je dise d'autre après ça?
peut-être Antoine, tu pourrais nous parler de cette volonté justement de faire une appellation, la première appellation de France, 100% bio. Pourquoi?
Oui, vous savez, tu sais Yves, il y a un proverbe, un dicton que j'adore, c'est que la terre ne nous appartient pas, on l'emprunte à nos enfants. Et je pense que la plus belle des choses d'un être humain, quand il va quitter cette planète, c'est de laisser une terre propre. Et nous, dans le cadre de l'appellation de patrimoine, nous sommes aussi la première appellation, une appellation qui avons refusé l'irrigation des vignes. C'est important quand on parle aujourd'hui de manque d'eau, parce qu'on y va tout droit. C'est très important. Je pense qu'il y a des valeurs qu'il faut savoir respecter et transmettre. Et l'histoire d'avoir des sols propres. J'espère qu'un jour, on ira encore plus loin. Mais il y a une très belle génération qui ont des qualités. C'est des bosseurs. C'est des gars qui ont quelque chose sur le cuir chevelu. Ouais, c'est vraiment une très, très belle génération.
Toute la Corse, et puis ils replantent des anciens cépages. Ils font vraiment un boulot extraordinaire pour participer à cette vitalité-là de la vigne corse.
Il y a eu un travail qui a été fait en viticulture, comme le rappelait Yves. Dans les années 80, nous montions à Paris. Je l'ai vu débuter, le petit camp de bord.
C'est ça, avec la régalade.
À l'époque, vous savez, on allait aujourd'hui monter à Belleville. C'est cool. Mais à l'époque, dans les années 80-90, on se retrouvait à Belleville, à rue des Envierges, au bistrot des Envierges. On ne savait peut-être pas ce qu'il fallait faire. On ne voulait plus faire des vins avec des levures, avec des doses de sulfite énormes. Non, donc on est parti comme ça vers cette viticulture-là.
Et vous avez voulu remettre aussi au goût du jour des cépages endémiques à la Corse. Hein. Parlez-nous de ces cépages un petit peu.
Ça a été vous savez, quand on est revenu ici dans les années 70-80, on savait pas ce qu'on devait faire, mais on savait ce qu'on ne devait plus faire en viticulture en Corse. Il y a eu tellement de mauvais produits qui avaient été élaborés dans les années 60-70. Je ne vais pas faire l'historique du vignoble, mais en tout cas, nous, on savait qu'il fallait qu'il fallait typer, donner du caractère à nos produits. Et nous avions la chance d'avoir une gamme de produits de cépages vraiment hyper intéressant.
Lesquels? Dites les noms, tiens, pour que nos auditeurs entendent ces noms qui chantent.
Le Vermentino, qui est une Malvasie. Le Nieluccio, qui est un cépage local, qui est un petit cousin du Sangiovese de Toscane. Le Chacarello. Mais nous sommes aussi, après, à la recherche, nous avons ressorti le Bianco Gentile, le Riminese. Il y a plein de cépages comme ça qui aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence avec les autres régions viticoles de France. Quoi.
Et qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui alors pour mettre en voie Patrick Fury?
Ça, c'est un Vermentino. Mais c'est pas bon les blancs pour les chanteurs.
C'est pas bon, ça dépend les chanteurs.
C'est vrai que c'est mieux le rouge. Hein. Aznavour buvait toujours un petit verre de rouge avant de monter sur scène. Hein. Patrick, vous confirmez?
Mais c'est vrai. Alors, je sais pas quel effet ça a sur la voix, mais en tout cas, sur l'âme et sur le cœur, ça nous rappelle des choses, surtout du partage, des repas de famille, des gens qu'on aime. Ouais, ça réchauffe.
La chaleur.
En tout cas, juste pour rebondir, parce que je sais qu'il faut reconnaître timé. Moi, je vous trouve extraordinaire. Je vous trouve extraordinaire, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai la chance d'avoir fait peut-être 3 fois le tour du monde. Et dans ces tours du monde, à chaque fois, dans des pays très, très lointains, pratiquement inconnu. Des gens m'ont ouvert des bouteilles de vin en Corse, encore récemment, et dont une venait certainement de chez vous. Je peux vous dire que c'est très agréable, parce que quand on vous sort autre chose qu'une, je dirais, qu'un pommerol ou que, voilà, enfin de ces vins qu'on connaît, là-bas au bout du monde, c'est très agréable de se dire qu'il y a des gens comme vous qui ont cette envie d'avancer et de bien faire les choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Moi, je voudrais rajouter une chose. Si nous en sommes arrivés là, c'est que ce n'est pas le travail d'une personne.
Non, non, bien sûr, mais là, c'est vous aujourd'hui.
Moi, je tiens à remercier surtout la bistrologie parisienne qui nous a mis le pied à l'étrier dans les années 80. Et donc, c'est ce monde-là, la nouvelle génération des chefs.
Et toute la nouvelle génération est très sensible à ces vins bien faits et faits avec du cœur et aussi en respectant les sols, comme vous le disiez. Mais vous ne m'avez toujours pas dit qu'est-ce qu'on déguste alors, quel est le blanc qu'on boit?
C'est un Vermentino. C'est une Malvasie en fin de compte. Ça, c'est la parcelle Mortemaillon. En fin de compte, sur le domaine, on a fait des sélections de terroirs et on donne le nom du lieu-dit au vin.
Eh ben, il est très très bien ce vin. Gardez-le avec vous, Patrick Fury. Il va vous réchauffer pour passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, Patrick?
Alors, le goût de mon enfance. Alors, les tripes.
Mais
le problème des tripes, c'est qu'il ne faut pas être là quand ils les font cuire, quoi.
Ça embaume.
Oui, ça embaume. Alors, du coup, il faut avoir un truc extérieur. Il faut mettre une gazinière, un truc extérieur, parce que sinon, c'est qu'est-ce que c'est bon, les abats.
Ben, oui.
On parlait du figatelli tout à l'heure. Voilà, c'est de saison. C'est vrai qu'au feu de bois, avec du pain, un bon pain de campagne dessous pour bien absorber le jus, et puis ensuite manger ça derrière, c'est excellent. Donc, les tripes, voilà.
Ah, il en parle bien. Laurent. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo, Patrick?
De l'eau de montagne. Pour un chanteur, ça, c'est de bon augure. Donc, de l'eau de montagne, quelle qu'elle soit, que ce soit chez de la Zilia ou de la Saint-Georges, voilà, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, je suis très heureux de retrouver ces eaux un peu partout. Et du coup, ben, quand j'arrive dans des restaurants, je ne sais même pas pourquoi, ils me sortent aussi. Oui, une Saint-Georges, que ce soit à Paris, au Canada ou ailleurs.
L'eau de Zilia. L'eau corse, l'eau locale. Votre plus beau repas, Patrick Fury?
Alors, c'est Noël. C'est Noël parce que j'ai cette chance de breaker vraiment et de me dire que pendant 4 ou 5 jours, je suis avec la famille. Et c'est ça qui m'éclate. Parce que, voilà, je vous le disais, dans la famille, on a des cuisinières hors pair. Voilà, les hommes s'y mettent un peu, bon, un peu moins moi, pour vous dire la vérité. Mais c'est ça, c'est vraiment les repas de Noël, quoi.
Votre plus grand raté en cuisine?
Mon plus grand raté en cuisine, je n'ai pas vraiment de raté, moi. Je
réussis tout.
Je ne cuisine pas.
Ça évite les ratages.
Je réussis presque tout, mais je dirais que moi, c'est là où mon pire repas, plutôt, ça serait dans les trains, par exemple.
Ouais. Ah, ça c'est terrible.
Surtout quand vous apprenez au bout d'une demi-heure qu'il ne va pas y avoir de service.
C'est ça, oui, ça arrive très souvent.
Mais ce n'est pas grave, on leur pardonne.
Ouais. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Patrick Fury?
Je pense que c'est les gens qu'on aime, non? C'est les gens qu'on aime, c'est les gens que j'aime, c'est de se dire qu'à table. Alors, je sais qu'on parle de cuisine, parle de ça, mais est-ce que c'est le plus important ce qu'il y a à table? Je pense que c'est ce qu'il y a autour de la table.
C'est voilà. Le moment, hein, c'est ce qu'on se disait
et,
aussi.
Voilà, et c'est le moment. Et en règle générale, les gens qui sont autour de la table ont envie de se faire plaisir et sont dans le partage. Donc, les gens qu'on aime.
Et le mot de la fin est Fayem, Patrick Fury?
Alors, le mot de la fin, et ça continue encore et encore.
C'est que le début, d'accord.
Allez, bienvenue en Corse, en tout cas.
Merci. Corsou Mezzou, Mezzou 2, c'est votre album. Et vous serez le 28 octobre 2023 avec les participants des deux disques à Paris La Défense Arena. 45 000 spectateurs attendus. Merci Francine Massiani.
Mais Francine sera là. Hein. Elle sera là, elle chantera aussi.
Elle chantera avec vous, avec Nico.
Ah oui, mais on va la faire chanter même plus
Kifa,
que ça.
Kifa qu'on retrouve sur l'album. Merci Antoine Arena.
Merci à vous.
Et bravo pour ce joli travail. Merci à tous les artisans et tous les producteurs corses qui nous ont reçus avec amour. Merci à ma belle équipe d'avoir permis ce beau déplacement. Benjamin De Santis, Olivier Duval et Laurent Lecor, l'équipe technique d'Europe 1, d'avoir installé la table des bons vivants ici au milieu des champs de Clémentine. Et donc un grand merci à Stéphane et Kylian Gigon pour leur accueil sur l'exploitation à Venzolasca. Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Descourou, Anaïs Kerdraon, Julien Amat à la rédaction, Claire Dutronc à la programmation et Loïc Vimard à la réalisation. On se retrouve samedi prochain à Paris et nous serons au studio Coluche avec Cécile de France que nous allons cuisiner aussi dans un instant. C'est Europe Midi avec Lénaïque Monnier. Bon week-end sur Europe 1.
Weekend.